France Inter. Secret d'info. Mathieu Aron.
Une décoration en catimini. Lors de la remise de la Légion d'honneur au prince héritier saoudien Mohamed Ben Nayef, aucun média français. C'est l'agence de presse saoudienne qui a annoncé la nouvelle. Face à la polémique, le ministre des Affaires étrangères a dû défendre l'Élysée.
Je crois que nous discutons avec ce pays, l'Arabie saoudite. Et de quoi nous discutons ? Nous discutons de la paix en Syrie.
Donc ça méritait une Légion d'honneur.
C'est une tradition démocrate, diplomatique. C'est une tradition diplomatique.
Une tradition diplomatique. Voilà ce que disait Jean-Marc Ayrault à Patrick Cohen le 7 mars dernier sur France Inter. Traduction, fermez le banc, inutile de polémiquer. Et tout cela au nom de la réelle politique. Bonsoir Jacques Monin.
Bonsoir.
Vous avez mené l'enquête pour savoir quelle était la nature précise de nos relations avec l'Arabie saoudite. Mais déjà une question, cette Légion d'honneur décernée à des dignitaires étrangers, est-ce vraiment une tradition diplomatique ?
Eh bien, la réponse est oui. Il existe en fait deux sortes de légions d'honneur. Vous avez celle qu'on remet aux Français pour service rendu, pour mérite particulier, c'est celle dont on parle le 14 juillet. Et puis, il en existe en effet une autre, plus occulte en quelque sorte, qu'on remet au coup par coup et en toute discrétion cette fois-ci, aux dignitaires étrangers, au nom, effectivement, des intérêts de la France.
On décore donc ainsi toutes sortes de personnalités et même les plus contestable.
Faut savoir par exemple que Bachar el-Assad, avant lui son père d'ailleurs, avait été décoré. Mais c'est aussi le cas de la plupart des dictateurs africains, comme le remarque Antoine Glaser, qui est journaliste et spécialiste de l'Afrique.
Tous les chefs d'État africains sont décorés Grand Croix de la Légion d'honneur. Paul Biya, Alassane Ouattara a été décoré par Nicolas Sarkozy, qui a également décoré la première dame Dominique Ouattara, qui est franco-ivoirienne. Denis Sassou Nguesso, enfin, souvent le chef des services secrets est décoré par la France pour services rendus. Je ne me souviens plus des noms, mais il y avait des intermédiaires, vraiment des types vraiment sulfureux, qui avaient été décorés de la Légion d'honneur française uniquement parce qu'ils avaient fait obtenir des contrats d'armement extrêmement importants. C'est très souvent la réelle politique qui compte.
On a compris, c'est donc effectivement une sorte de tradition et cette tradition, eh bien, elle s'applique aussi à l'Arabie Saoudite.
Oui, le roi Abdallah, à l'époque, avait été décoré par la France, son ministre des Affaires étrangères aussi, les principaux militaires du pays également. On a même décoré, il y a plusieurs années, un homme d'affaires saoudien juste pour le remercier parce qu'il venait de nous acheter son deuxième Airbus.
Et alors, Mohamed Ben Nayef, le prince héritier saoudien, pour quelle raison, lui, l'a-t-on décoré ?
Alors, pour une raison très simple, c'est le successeur désigné du nouveau roi Salman, qui est monté sur le trône en janvier 2015, mais qui a tout de même déjà 80 ans. L'État français considère donc qu'il a tout intérêt à courtiser quelqu'un qui tiendra peut-être demain les rênes du pays.
En d'autres termes, Jacques Monin, c'est ce qu'on pourrait appeler un investissement sur l'avenir.
Oui, si peu importe le mérite de la personne, et dans le cas présent d'ailleurs, parler de mérite, c'est juste un peu déplacé, parce que Mohamed Ben Nayef, c'est le bras droit du roi Salman. Or, écoutez François Hesbourg, le conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique, il se souvient d'une conversation assez stupéfiante qu'il avait eue avec le futur souverain. C'était en 2005, alors que celui-ci était gouverneur de la province de Riyad.
Bon, il parle de l'état du Moyen-Orient, de la situation dans le royaume. Chose d'ailleurs intéressante, hein, rien à redire. Et puis, à un moment donné, il est parti sur la façon dont nous sommes supposés traiter Israël et la façon totalement injuste et différente dont nous traiterions les pays arabes et les Palestiniens. Bon, il n'y avait pas de quoi grimper au rideau. Et puis tout d'un coup, il dit, d'ailleurs, Adolf Hitler, il avait très bien compris. Il avait très bien compris quel était le danger par rapport auquel il fallait faire face. C'est quelqu'un qu'on aurait dû davantage écouter. Et puis il dit, oui, mais finalement, il a échoué, alors c'était peut-être pas si bien que ça. Voilà un petit peu le bonhomme. Et je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup changé.
Ça fait vraiment un froid dans le dos, ce récit.
Oui, mais ça en dit long sur celui qui gouverne aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Et au-delà de l'homme, d'ailleurs, on peut aussi s'interroger sur sa politique, parce que de ce côté-là aussi, il y a à dire. Il existe à ce sujet une note très éclairante qui a été rédigée juste après les attentats de Charlie Hebdo à la demande du Quai d'Orsay. C'est une note qui a été révélée par le journaliste Vincent Jauvert dans son livre « La face cachée du Quai d'Orsay » et qui, à l'en croire, est elle aussi plutôt préoccupante.
C'est une note du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, donc les spécialistes prévisionnistes en quelque sorte du Quai d'Orsay. qui sont allés en Arabie Saoudite quelques jours après les attentats de janvier pour étudier ce pays et voir vers quoi il allait. Et c'était juste après la mort de l'ancien roi et l'arrivée du nouveau. Et ce qu'ils décrivent, c'est une Arabie Saoudite qui va être de plus en plus dure intérieurement, de plus en plus liée aux religieux. Le roi précédent avait éliminé les ministres wahhabites. Il en a repris certains, de nouveau. La police religieuse est de plus en plus efficace, de plus en plus dure vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des droits de l'homme, vis-à-vis de la presse. Et donc, pour ces rédacteurs de cette note-là, notre allié est un tyran.
Un tyran, et avec cette note rédigée pour le Quai d'Orsay, l'Élysée est donc parfaitement informée. Pourquoi, dans ces conditions, attribuer tout de même la Légion d'honneur au numéro 2 du régime ?
Eh bien parce que les diplomates français considèrent que malgré tout ça, la France peut y trouver un intérêt. Alors lequel, vous me direz ? Eh bien pour le comprendre, il faut se pencher sur ce mail envoyé par l'ambassadeur de France à Riyad, Bertrand Besancenot, au conseiller de François Hollande pour le Moyen-Orient. Il l'envoie juste avant la venue à Paris du prince héritier. Écoutez bien, ce mail a été publié par le magazine féministe Cosette et son contenu nous est lu par Benoît Colomba.
L'accueil à Paris du prince Mohamed Ben Naïef est important à plusieurs titres. Reconnaissance du rôle personnel éminent du prince dans la lutte contre le terrorisme qui est une priorité nationale partagée. Nécessité de conserver la dynamique de renforcement de notre coopération bilatérale pour conforter nos prospects civils et militaires.
Alors on va revenir sur ces prospects, hein, en clair, ces contrats. Mais déjà, est-ce que la France a besoin réellement de Riyad pour lutter contre le terrorisme ?
Bon, alors soyons très clairs, personne ne se fait vraiment d'illusions sur la coalition de 39 pays qui a été formée par l'Arabie Saoudite pour lutter contre le terrorisme. Cette coalition n'a d'ailleurs jamais désigné clairement le groupe État islamique comme son ennemi principal. Non, ce sur quoi compte la France, c'est surtout sur une coopération avec les services de renseignement saoudiens pour identifier des djihadistes. Il faut rappeler quand même que Mohamed Ben Naïef, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est donc un homme clé dans ce dispositif. Écoutez ce qu'en pense Olivier Dallage, qui est journaliste à RFI et membre d'un groupe de réflexion sur l'Arabie Saoudite.
Il ne fait pas de doute que les services saoudiens, qui ont été tardivement mais très efficaces contre Al-Qaïda à partir de 2003, c'est-à-dire du gros attentat qui a frappé Riyad en plein cœur dans le quartier d'Al-Mansour, a des informations que les services français n'ont pas. Et donc je pense que ce qui est suggéré par ce faux pas de la Légion d'honneur qui a été donnée pour des raisons d'autres stratégies, c'est que les services saoudiens ont des informations sur ces réseaux djihadistes que les services français n'auraient pas s'il n'y avait pas une coopération étroite. Et donc s'il fallait en passer par une Légion d'honneur, eh bien elle a été attribuée. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre cette opération.
Voilà donc pour la première raison sécuritaire. La seconde, eh bien, ce sont bien sûr ces contrats juteux que nous pourrions passer avec ce pays. De ce point de vue, est-ce que le Royaume saoudien est un marché qui réussit vraiment aux entreprises françaises ?
Pas vraiment. Jusqu'ici, la plupart des gros contrats nous sont plutôt passés sous le nez. Le métro de la Mecque a été confié à un groupe chinois. Celui de Riyad et celui du TGV Jeddah-Médine à des consortiums américains et espagnols. Thales et Alstom, des entreprises françaises, ont bien, c'est vrai, quand même récupéré une partie de la sous-traitance, mais les plus gros contrats, eh ben, ils sont pour d'autres pays.
Alors, il faut être honnête, les contrats que vous venez d'évoquer, c'était avant 2012. Depuis, François Hollande est donc à l'Élysée. On le sait, c'est un président qui a parié énormément sur l'Arabie Saoudite. Est-ce que ce soutien français se traduit concrètement ?
Bon, alors, pour répondre à ça, je vous propose un petit retour en arrière. Nous sommes en octobre dernier. Manuel Valls se rend à Riyad avec une délégation de chefs d'entreprise français et il annonce la signature imminente de 10 milliards de dollars de contrats.
Ce qui fait beaucoup d'argent. On a donc le sourire dans la délégation, sauf qu'on va vite déchanter.
Oui, parce que d'abord l'accueil n'est pas vraiment chaleureux. Et puis ensuite parce que le roi Salman, le souverain du royaume, va faire poireauter le premier ministre français. Christian Chesneau est notre spécialiste du monde arabe à France Inter. Il faisait justement partie de cette délégation et il se souvient très bien de l'arrivée de Manuel Valls.
Il a été reçu, j'allais dire, par un sous-ministre. Le roi ne s'est pas déplacé, le prince héritier ne s'est pas déplacé. Donc, malgré les bonnes relations officiellement entre la France et l'Arabie Saoudite, il n'a pas eu un accueil grandiose. À un moment donné, il a même patienté pendant une heure dans un grand hôtel où il résidait. Et donc, ça s'est pas très très bien passé finalement. C'est-à-dire, au-delà des apparences, des communiqués, etc. Bon, les Saoudiens, finalement, ne l'ont pas reçu avec tout le décorum qu'on pourrait attendre d'un Premier ministre français.
Alors ça, c'était pour l'accueil plutôt froid, mais ensuite, est-ce que ça s'est arrangé ?
Bah pas vraiment, hein. On espère quand même à ce moment-là qu'on va signer des contrats, mais là encore, c'est un peu la douche froide.
La première grosse déception, c'est sur les Airbus. L'Arabie Saoudite devait commander des Airbus A380. Le contrat est prêt à 22h et à 3h du matin, les Saoudiens annulent une grosse commande. Il y en avait pour plusieurs milliards. Hein. Donc pour Airbus, bah c'est un gros flop. Il y a eu d'autres flops. Un flop pour Veolia, qui devait signer pour 3 milliards de dollars un contrat sur la gestion des eaux de Riyad. Matignon nous annonce, c'est fait, c'est signé. Et puis finalement, au moment de la signature, ah non, c'est toujours en négociation. Ça veut dire que c'est pas signé, ça veut dire qu'il y a encore des choses à ficeler, et donc, nouvel échec. Donc, quand on parlait, on discutait avec les gens de la négociation, ils faisaient un peu grise mine.
Grise mine, d'autant plus que cet échec n'a pas été le seul.
Non, il y a encore le laboratoire français LFB qui espérait, lui, voir avancer son projet de créer une usine de production de médicaments dérivés du plasma. C'est un contrat quand même potentiel de 900 millions d'euros, mais là non plus, rien n'avance.
Et puis, il restait un énorme contrat avec EDF.
Oui, alors faut savoir que le géant français de l'électricité espérait vendre deux EPR à l'Arabie Saoudite qui a annoncé le lancement d'un vaste programme nucléaire. Mais là encore, on risque de déchanter. Écoutez, François Toisy, c'est un ex-fonctionnaire du Quai d'Orsay. Lui est convaincu que Aramco, le géant du pétrole saoudien qui est en charge de ce dossier, est en train de faire machine arrière.
Il n'est pas exclu que le projet soit revu à la baisse. Il y a beaucoup de réserves au niveau d'Aramco pour privilégier le solaire où l'Arabie Saoudite veut être un géant du secteur. Et puis de l'autre côté, il semblerait que l'Arabie Saoudite regorge de gaz naturel en mer Rouge. Ça les obligera à repenser bien sûr leur stratégie nucléaire puisque l'Arabie Saoudite va s'engager massivement dans l'exploitation de ces nouvelles ressources.
Là encore, hein, donc ça ressemble à un nouveau revers en perspective pour la France. Comment on peut expliquer un tel bilan ? Pourquoi y a-t-il un tel décalage entre les annonces faites par Manuel Valls, les 10 milliards et le résultat final ?
Eh bien, pour commencer, peut-être parce qu'on a péché par excès de confiance. On aurait crié cocorico un peu trop tôt. C'est en tout cas ce que pense le spécialiste du golf, Olivier Dallage.
C'est un grand classique chez les dirigeants français qui vont en voyage en Arabie Saoudite et qui, dans l'avion, disent aux journalistes « Voilà, on va signer plein de contrats pour un montant total de milliards. » Édouard Balladur l'avait fait en son temps, Emmanuel Valls l'a refait. Alors, ça présente deux inconvénients, c'est que à l'arrivée, quand les journalistes publient ces informations, les Saoudiens ont un petit peu le sentiment qu'on les met devant le fait accompli alors que rien n'est encore signé. Et c'est jamais très très bon pour les résultats, donc ils donnent un petit peu une leçon à leurs visiteurs qu'on ne les prend pas comme ça de haut. Le plus souvent, il s'agit de simples reports, mais pour ceux qui croyaient déjà que les carnets de commandes français étaient garnis, on découvre à l'arrivée que ce sera peut-être pour plus tard, voire jamais.
Oui, et pour bien comprendre comment nous sommes perçus, j'ai envie de vous faire partager cette remarque que m'a rapporté un ancien diplomate français, un dignitaire saoudien lui a dit, je cite, hein, « Vous les Français, vous ne vous intéressez qu'à notre argent, vous vous comportez comme des prostituées, alors ne venez pas vous étonner qu'on vous traite comme tel. »
Bon, pas très élégant, mais ça, au moins le mérite de la clarté. La fierté saoudienne pourrait donc expliquer en partie hein, cette difficulté que nous avons à décrocher des contrats, mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres raisons.
Oui, bien sûr, il y en a une autre, beaucoup plus profonde, qui elle tient tout simplement à la crise économique que traverse maintenant le pays. Il faut savoir que pour la deuxième année, les comptes de l'Arabie Saoudite sont dans le rouge. Avec la baisse du prix du pétrole, le déficit public a atteint 21% du PIB, le chômage des jeunes est de 30%, et pour la première fois de son histoire, le pays a commencé à emprunter. Slimane Zegoudir est chroniqueur à TV5 Monde. Il était il y a peu en Arabie Saoudite et il a bien senti que le climat changeait, même si les effets de la crise ne se voient pas encore.
Personne ne dort sous les ponts. L'État reste encore un État-providence. Les prix du carburant sont ridicules. On peut faire un plein d'essence à moins de 5 euros. Mais il va y avoir une entrée dans la vérité des prix. Beaucoup de projets ont été arrêtés. Beaucoup d'expatriés repartent. Des entreprises extérieures qui travaillent en Arabie Saoudite sont payées de plus en plus avec du retard. Donc ce n'est pas la panique, mais il y a un début de marasme.
Et ce début de marasme a contraint l'Arabie Saoudite, qui l'eût cru, à prendre des mesures d'austérité.
Oui, réduction des subventions, mais aussi création d'une TVA, c'est une première. Alors attention, le pays a encore de grosses réserves, 700 milliards de dollars, c'est énorme. Mais il puise désormais dans son bas de laine, et pour François Hesbourg, il pourrait bien à terme devenir une poudrière.
Au rythme actuel, l'Arabie saoudite n'aura plus de réserve de change dans 4-5 ans. La guerre du Yémen coûte très cher. Le maintien de l'État-providence en Arabie saoudite dans une population de jeunes qui arrivent sur un marché du travail inexistant, ça coûte très très cher, avec de vrais risques de violence sociale. Indépendamment de toute considération religieuse, ça risque d'être très très compliqué à gérer, ça.
Les perspectives ne sont donc pas bonnes, mais on peut penser, hein, Jacques Monin, que Riyad ne compte pas subir cette crise sans réagir.
Non, le gouvernement a compris que s'il reste dépendant à 90% du pétrole, comme c'est le cas aujourd'hui, il va dans le mur. Et c'est pour cela qu'il vient d'annoncer une série de privatisations et puis la création d'un fonds souverain de 2000 milliards de dollars qui devrait lui permettre d'investir dans toutes sortes de projets industriels. En fait, l'Arabie Saoudite est en train de s'aligner sur ce qu'ont déjà fait le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou même le Koweït qui, eux, ont depuis longtemps diversifié leur économie. Et ce sera, pour Riyad, l'enjeu des années qui viennent.
Alors on vient de voir que le contexte économique a été profondément bouleversé. Cela dit, il y a un secteur qui reste dynamique, c'est celui des contrats militaires. Et ça, c'est l'autre gros volet de notre relation commerciale avec les Saoudiens.
Et pour cause, il faut savoir que l'Arabie Saoudite, c'est le premier acheteur d'armes au monde. Riyad dépense 100 milliards de dollars chaque année pour sa défense. C'est énorme, c'est plus que la Russie.
Cela dit, pour être très précis, il existe deux types de contrats militaires avec les Saoudiens.
Oui, alors il y a ceux qu'on passe en direct avec eux, et puis il y a ceux qu'on passe avec d'autres pays, mais qui seraient impossibles sans le soutien effectivement financier des Saoudiens.
Et la meilleure illustration de ce deuxième cas de figure, ces contrats indirects, c'est ce qui s'est passé avec l'Égypte.
Oui, on le sait peu, mais c'est l'Arabie Saoudite qui a poussé son allié, l'Égypte du maréchal Sissi, à acheter nos 24 premiers Rafales et les deux porte-hélicoptères Mistral qu'on ne voulait plus vendre à la Russie à cause de la crise ukrainienne. C'est ce que nous explique Vincent Jauvert, l'auteur de La face cachée du Quai d'Orsay. Les Saoudiens, dit-il, ont joué un rôle majeur dans cette transaction.
Ils n'ont pas payé directement, c'est pas eux qui ont acheté, mais ils ont ouvert une ligne de crédit très importante au régime Sissi, et avec cette ligne de crédit, ils ont acheté les deux Mistral et les premiers Rafales dont la France était si fière. Vous vous rendez compte? À la fois, ils ont pris ces deux Mistral dont on savait pas quoi faire, on était la risée du monde, et ils ont réussi à débloquer le premier contrat de vente de Rafale à l'étranger. Donc, ils ont sauvé une partie de l'industrie de l'armement française.
Donc, de ce côté-là, au moins, nos bonnes relations avec l'Arabie Saoudite ont payé.
Oui, la France a aussi décroché un contrat d'armement qu'on appelle DONAS. C'est un contrat qui porte, lui, sur 3 milliards de dollars payés par l'Arabie Saoudite, mais pour équiper l'armée libanaise. Alors, on a eu un peu peur. Ce contrat a failli être annulé, officiellement parce que l'Arabie Saoudite reproche maintenant à l'armée libanaise d'être passée sous la coupe des chiites du Hezbollah. Mais on a finalement trouvé un accord. Les armes seront bien livrées, mais directement aux Saoudiens et non plus aux Libanais.
Alors là, on a évoqué jusqu'à présent les contrats militaires passés en partenariat avec les Saoudiens pour le compte d'autres pays. Mais quand il s'agit de traiter directement avec le royaume, là, les choses se compliquent quelque peu.
Oui, parce que le marché de l'armement à Riyad, c'est un peu comme un gâteau dont la France ne pourrait manger qu'une petite part. Écoutez Jean Guinel, qui est un spécialiste des questions de défense, au point, quoi qu'on fasse, dit-il, en Arabie Saoudite, il y aura toujours des chasses gardées.
Les ventes de Rafale en Arabie Saoudite, c'est même pas la peine d'y penser. Du côté français, on va toujours vous expliquer qu'on peut vendre du Rafale en Arabie Saoudite. Ma conviction à moi, c'est que, comme c'est le cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les ventes d'avions de combat en Arabie Saoudite sont réservées aux États-Unis avec subsidiairement le Royaume-Uni. Et la France, elle n'est pas dans ce jeu-là. La France, elle a des espaces dans l'armement terrestre, des petits espaces dans l'armement naval. Et maintenant, elle cherche à faire son trou dans le système d'espionnage spatial.
Le marché est donc très très limité et il faut le dire, Jacques Monin, les gros contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite, en réalité, on n'en a pas signé depuis quasiment 20 ans.
C'est vrai, alors il y a bien eu quand même un contrat qui portait sur la sécurisation des frontières de l'Arabie Saoudite avec des systèmes de caméras, de cellules photoélectriques. Un contrat qui a été signé en 2009 avec EADS. Maintenant, on peut remarquer que EADS est un groupe franco-américain. allemand, le franco-français Thalès, qui était aussi sur les rangs, a lui été écarté. Après, vous avez quand même ce qu'on pourrait appeler des contrats moyens. Une trentaine de patrouilleurs rapides devraient bientôt être livrés par la France, mais de méga contrats qui portent sur des milliards de dollars, là c'est vrai, il n'y en a pas eu récemment.
Et pour comprendre pourquoi on a autant de mal à vendre aux Saoudiens, il faut revenir à une vieille affaire qui a quelque peu défrayé la chronique.
Oui, une affaire médiatique qui a empoisonné pendant très longtemps nos relations avec Riyad et qui remonte à 1995. On avait alors vendu aux Saoudiens 3 frégates pour près de 4 milliards d'euros. C'est le fameux contrat qu'on a appelé Sawari 2 et dont François Hesbourg nous rappelle les contours.
En 1995, on vend les frégates Sawari 2 à l'Arabie Saoudite. Ces contrats étaient assortis de commissions encore plus importantes que les commissions habituelles. Les mauvaises langues veulent que ce pourcentage était lié à l'importance des rétro-commissions qu'espérait obtenir un certain nombre d'acteurs de la vie politique française à l'époque. Lorsque le président Chirac arrive aux affaires, M. Juppé arrive comme Premier ministre, ils sont terrifiés par ce qu'ils découvrent. Mais du coup, dès lors que les intermédiaires avaient été changés, on a une rupture des réseaux pendant un certain temps. Après ça, les responsables saoudiens nous ont tourné le dos.
Oui, et juste pour mémoire, ce contrat Sawari 2 est au cœur de l'enquête sur l'attentat de Karachi, puisque la justice se demande justement si ce n'est pas l'arrêt des commissions négociées dans le cadre du contrat qui aurait provoqué l'attentat par mesure de rétorsion.
Alors, on va laisser pour ce soir le volet judiciaire de cette affaire pour nous pencher sur le système qu'elle révèle. Si je vous comprends bien, Jacques, qui dit contrat d'armement dit forcément intermédiaire, donc commission, voire souvent rétro-commission.
Absolument. Et de ce côté-là, l'Arabie Saoudite a une longue tradition, disons les choses, de corruption. On peut citer une autre affaire qui concerne, elle, la Grande-Bretagne. C'était dans les années 80. L'entreprise BAE Systems avait vendu aux Saoudiens plus de 150 avions. C'était un contrat monumental qui s'est étalé sur une vingtaine d'années et qui portait sur plus de 80 milliards de dollars. Eh bien, à la clé, il y a là aussi eu des commissions faramineuses, raconte encore Jean Guinel, l'auteur du livre « Armes de corruption massive ».
C'est une énorme vente d'armes, colossale, avec des dizaines d'avions, sinon des centaines, les à côté, les munitions, les formations, donc c'est énorme. Et c'est assorti d'une commission absolument colossale qui avoisine les 30%. Donc c'est le record du monde, c'est même plus que les frégates de Taïwan, c'est encore plus colossal, c'est inouï, c'est inimaginable. Le trésor saoudien a payé ses avions 30% de plus que le prix déjà salé facturé par les Anglais. Et l'argent de la corruption a été redistribué entre les princes de la famille royale. Pour l'un d'entre eux, par exemple, il va récupérer pour son usage personnel un Airbus A340, celui qui était ambassadeur à Washington.
Un Airbus, rien que ça. Alors on l'a compris, les contrats d'armement sont donc une véritable vache à lait pour la famille royale. Et il faut préciser que pour acheter ces armes, l'Arabie Saoudite a imposé à la France une procédure très particulière.
Oui, en fait, jusqu'à il y a peu, l'Arabie Saoudite ne voulait pas traiter en direct avec les entreprises. Elle ne voulait le faire que d'État à État. Alors pour vendre aux Saoudiens, la France a dû créer spécialement, en 1974, un organisme qui rassemble les fabricants d'armes de l'Hexagone, Thalès, Dassault, etc. Un organisme qui parle au nom de l'État français et dont la fonction est de servir d'interlocuteur unique avec les Saoudiens.
Et cet organisme, dans un premier temps, il s'est appelé la Sofresa.
Oui, c'est la Sofresa qui a négocié les fameux contrats Sawari 2 avec les suites judiciaires qu'on connaît. Quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, Karachi était passé par là. Il a donc jugé que la Sofresa sentait un peu trop le soufre et il l'a rebaptisé Audace, ça s'écrit O-D-A-S.
Audace prend donc le relais et négocie désormais les contrats de vente d'armes, sauf que depuis quelques mois, cet organisme, Audace, est à son tour dans le collimateur du pouvoir saoudien.
Bah oui, parce que jusqu'en 2015, les commissions versées dans le cadre des contrats d'armement passés avec Audace transitaient par des intermédiaires libanais qui travaillaient pour le compte du roi Abdallah. Seulement, le problème, c'est que Abdallah est mort et le nouveau roi, comme son fils Mohamed Ben Salman, est convaincu que les contrats passés avec la France, donc avec Audace, continuent d'alimenter les réseaux du roi défunt. Et ça, pour eux, c'est insupportable. Écoutez Pierre Gastineau, qui est rédacteur en chef d'Intelligence Online, c'est une lettre spécialisée précisé dans le renseignement. C'est à cause de cela, dit-il, que le roi veut en finir avec le système Audace.
L'entourage du clan Salman se dit que ça bénéficie à Abdallah, mais bon, il est mort, donc ça bénéficie en fait à son fils, Mouteb bin Abdallah, qui était l'un des autres prétendant entre guillemets au trône saoudien, qui du coup est assez durablement écarté, et en fait le clan Salman se dit, on finance en fait en sous-main, on permet toujours de laisser une soute au fils d'Abdallah Mouteb, qui donc est le patron de la garde nationale. Ce contexte-là les rend quand même assez paranoïaques, donc du coup ils se disent vraiment Audace, on n'a pas la main dessus, on comprend pas qui gère quoi dans Audace, et surtout qui sont les réseaux en dessous. Du coup le 13 novembre, Mohamed bin Salman a écrit une lettre aux Français, disant qu'il ne voulait absolument plus traiter avec Audace. De facto, ça stoppe, on va dire, des contrats d'État à État.
Et si on bloque les contrats d'État à État, ça veut dire, si je vous ai bien suivi, que la France doit maintenant trouver de nouveaux intermédiaires, un nouveau circuit pour vendre ses armes.
Bah oui, Audace est grillé en quelque sorte. Et la formule qui revient d'ailleurs souvent chez les spécialistes, c'est on n'a plus les entrées, on n'a plus le mode d'emploi. On est dans une période de refonte des réseaux parce que les nouveaux dirigeants du pays cherchent à récupérer les commissions qui leur échappaient. C'est aussi l'analyse que fait Christian Chéneau de France Inter.
On veut finalement reconfigurer les réseaux de commissions, etc. Donc on est dans une période où tout est flou, changeant. Les anciens canaux, les anciens intermédiaires, bah tout ça s'est remis à plat. D'où des annulations de contrats, des contrats qui avaient été négociés de longue date. Eh bien, ça tombe à l'eau, on change, peut-être qu'ils vont être repris après. Mais en tout cas, on est dans une phase de mutation.
La France repart donc à zéro avec le nouveau clan au pouvoir à Riyad. Et comme en Arabie Saoudite, rien n'est simple. À l'intérieur même de ce nouveau clan, il y a de fortes rivalités.
Oui, on est dans une situation assez incroyable, avec une gouvernance à deux têtes en fait. Parce que sous le roi Salman, vous avez le prince héritier, Mohamed Ben Nayef, 56 ans, ministre de l'Intérieur.
Le fameux décoré de la Légion d'honneur. Hein.
Oui, donc a priori le futur roi. Mais vous avez aussi le fils du roi, Mohamed Ben Salman, qui n'a 31 ans et qui a été propulsé par son père vice-prince héritier. C'est donc un caillou dans la chaussure de Ben Nayef, mais un caillou qui est en train de devenir le véritable homme fort du pays. Écoutez ce qu'en dit Olivier Dallage de RFI.
On voit bien que le préféré du roi, c'est son fils, qui est actuellement le numéro 3 et qui occupe tout l'espace médiatique. C'est lui qui est ministre de la Défense. À ce titre-là, il a lancé la campagne contre le Yémen. Mais il a été également propulsé à la tête d'un comité économique qui chapeaute toutes les grandes institutions du pays, et notamment les institutions pétrolières et financières. Et le prince héritier, qui est généralement assez discret, qui n'a pas beaucoup d'alliés dans ce pouvoir, et surtout l'homme de la sécurité et du ministère de l'Intérieur. Donc on parle d'une rivalité entre les deux Mohamed. Il n'est pas sûr que le jeune prince bouillant qui occupe tout l'espace médiatique sera le prochain roi, mais il fait tout pour.
Et cette rivalité entre les deux princes, elle influe forcément sur nos relations commerciales avec l'Arabie Saoudite.
Bah oui, parce que chacun des deux rivaux ayant des réseaux différents, faut savoir à quelle porte frapper et surtout ne pas se tromper, parce que vous pouvez indisposer l'un ou vous aliéner l'autre. Le mode d'emploi devient donc d'une complexité déroutante, constate le chercheur François Hesbourg.
C'est toujours opaque l'Arabie Saoudite par définition. Mais là, c'est spécialement opaque parce qu'encore une fois, vous avez cette rivalité installée au cœur même du régime. Vous avez deux princes héritiers. Que vous avez deux successeurs, deux princes héritiers, vous avez inévitablement des conflits liés au réseau. Il y a une vraie tension et dans ces conditions-là, il n'est pas facile de conclure de vrais contrats.
Pas facile, ça c'est certain, mais les Français ne sont pas les seuls dans cette situation inconfortable.
Non, écoutez à ce sujet Pierre Gastineau, en fait personne ne sait vraiment comment tisser des liens avec ce nouvel attelage à deux têtes.
Ça va pas trop, pour nous, mais les autres non plus. Les Britanniques n'arrivent pas à vendre. Tout le monde galère un peu. Moi j'étais à Londres récemment, les Londoniens ils sont sur le clan Salman, ils n'ont pas d'entrée monstrueuse, ils galèrent toujours à trouver avec qui parler, les Américains sont un peu dans le même cas aussi. Ça a été aussi 2015, l'année voilà, d'un tel changement que beaucoup de gens ont perdu pied. À peu près tous les partenaires de l'Arabie sont un peu déstabilisés sur comment retrouver des canaux fiables de discussion, des canaux discrets, des canaux directs. Et c'est encore un work in progress.
Et ça nous ramène, Mathieu, à la fameuse Légion d'honneur dont on parlait au début. On peut aussi l'interpréter comme un signe adressé à un pays avec lequel, finalement, on a un peu de mal en ce moment à trouver nos marques.
Alors, excusez-moi, Jacques Monin, mais avec tout ce que vous venez de nous raconter, est-ce qu'on a fait vraiment le bon choix en courtisant ces dernières années, à ce point, l'Arabie Saoudite?
Alors, c'est une question qui se pose, effectivement, et ce, d'autant plus qu'un autre marché est en train de s'ouvrir. C'est le marché iranien. Or, pendant que les États-Unis misaient sur Téhéran, capitale d'un pays chiite, la France, elle, misait sur Riyad, la capitale d'un pays sunnite. Écoutez, Pierre Conessa, c'est un ex-fonctionnaire du ministère de la Défense qui prépare justement un livre sur l'Arabie Saoudite. Lui pense que dans cette affaire, nos dirigeants ont peut-être manqué de clairvoyance.
Tout le monde est en train de se demander si véritablement l'avenir c'est l'Iran ou c'est l'Arabie Saoudite quand même. Tout le monde, quand vous voyez... À la dernière anniversaire, à la résidence de l'ambassadeur d'Iran, si vous voulez, c'était l'endroit où il fallait être. Je ne comprends pas d'ailleurs que la diplomatie française était aussi intransigeante à l'égard de l'Iran, alors qu'on était véritablement dans un deal qu'Obama avait parfaitement compris, c'est-à-dire que toute la géopolitique du Moyen-Orient est en train de changer.
Et ce qu'on peut se demander dans ce contexte, c'est peut-on courir deux lièvres à la fois, viser le marché iranien après avoir été aussi proche de son grand rival, l'Arabie Saoudite?
Le problème, c'est que lorsque vous vous êtes déjà fait distancer et qu'en plus on vous a collé une étiquette, c'est un peu difficile. C'est en tout cas l'avis d'Olivier Dallage.
Dans toute la région, tout le monde a vu que la France penchait du côté des pays sunnites et des monarchies du Golfe. Et donc la fin de la longue parenthèse qu'a pu représenter l'isolement de l'Iran vis-à-vis de l'Occident pourrait se faire au détriment de la France.
Pour la France, c'est quand même pas très encourageant tout ça.
Non, alors le problème, c'est qu'en fait, personne ne sait où va l'Arabie Saoudite. Le pays bouge, c'est vrai, l'office du roi réforme, il s'entoure d'experts, il consulte des cabinets de conseil, il engage les meilleurs communicants et il surfe, c'est vrai, sur une énorme popularité. On a donc un bel emballage médiatique, mais dans le même temps, il y a la crise et on l'a vu, le pouvoir religieux se durcit. Ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas si on a de la poudre aux yeux ou si on assiste aux prémices d'un réel changement. En misant sur Riyad, la France a donc fait un pari, mais un pari risqué.
Merci beaucoup Jacques Monin pour cette enquête très fouillée qui est à retrouver sur notre site internet franceinter.fr, avec aussi une vidéo que vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Enquête aussi sur la page Facebook de Secret d'Info. Tout de suite, on va rester dans le monde arabe. Margot Duquesne va nous rejoindre. Elle s'est posé une question. Qu'en est-il dans ces pays du journalisme d'investigation? Thank you.